Bonjour. Vous souvenez-vous de mon étrange méditation de la semaine dernière où je vous invitais à méditer l'Épiphanie, le récit dans saint Matthieu de la visite des mages à Bethléem, mais en y joignant la fuite en Égypte et le massacre des innocents à Bethléem pour essayer de comprendre l'attitude chrétienne face aux conséquences du péché, aux conséquences fatales que la liberté humaine peut entraîner sur le sort des hommes. Et réfléchissant ainsi à l'épreuve de l'amour maternel et paternel lorsque le drame touche les enfants, et l'inverse aussi, je vous invitais à essayer de réfléchir à l'attitude de celles et ceux qui se trouvent blessés en leur amour conjugal. Et alors, voici maintenant ce que je voudrais aborder avec vous. Le cas est hélas trop fréquent de couples qui se défont, j'y ai fait déjà maintes fois allusion et nous le savons tous, sans que l'un des deux conjoints ait le sentiment d'avoir contribué à cette dissolution. Au moins, il n'en a pas conscience. Et en tout cas, la rupture lui paraît disproportionnée avec ce qui a pu se passer antérieurement. Autrement dit, l'un des deux s'estime victime, innocente pour une part, et subit comme une injustice la trahison, l'abandon, le départ de l'autre. Et ceci se renforce et s'accroît des conséquences que cela peut avoir pour les enfants, pour tout l'équilibre de ce groupe familial. Je ne peux pas ici entrer dans toutes les situations possibles. D'abord, elles dépendent tellement de l'histoire de chacun qu'il est impossible de les décrire, qu'il serait même indécent de vouloir faire une sorte de, comment dire, de cataloguer, de décrire des cas, des situations typiques. Il se peut aussi que, dans certains cas, ce soit finalement les deux époux qui peuvent être responsables l'un à l'égard de l'autre, mutuellement responsables. Mais prenons le cas simple, apparemment, d'autant plus douloureux, où l'un des deux est décidé à demeurer fidèle au sacrement reçu, à la promesse faite, à l'engagement pris, au projet auxquels ils avaient souscrit, à cette perspective d'un dépassement de soi-même et d'un amour capable d'être plus fort que toutes les faiblesses et toutes les trahisons, et que l'autre s'y refuse et s'en va. Ne parlons pas non plus des procédures du divorce et de ce qu'il entraîne comme destruction, car quelles que soient les procédures adoptées, il y a toujours pour les raisons des plaidoiries et d'utilisation des lois, quelque chose de parfois sordide et d'affreux dans les procédures de divorce, quelle que soit l'humanité que certains juges peuvent mettre dans l'application de la loi. Alors, comment vivre cela ? Vous me permettez de vous parler le plus simplement possible ? C'est un malheur, un grand malheur. Je n'ai pas d'explication à vous donner qui serait des consolations illusoires. Je ne peux pas vous dire vous avez raison, il ou elle avait tort, ou bien vous êtes un bon ou quelqu'un de et lui, il ou elle est une mauvaise ou un mauvais. Ça ne trime pas à grand-chose. Mais la seule manière de répondre, c'est ceci, c'est de dire, bon, Voilà que vous vous trouvez avec votre vie brisée ou gâchée, votre équilibre détruit. Comment réagir dans la foi ? Si vous avez déjà construit votre vie dans ce projet, premier projet, et qu'il se trouve brisé dans son projet, dans sa réalisation concrète, vous vous trouvez exactement dans la même situation que celle que je décrivais la semaine dernière, des parents à l'égard de leurs enfants, en réfléchissant à la situation dramatique de Rachel, dont les enfants sont morts, et qui ne veut pas être consolée. Et quelle est l'attitude de la nouvelle Rachel, la Vierge Marie, sinon précisément que dans l'épreuve, elle accepte la consolation, c'est-à-dire le don de l'Esprit-Saint. Et que c'est dans une entrée dans le mystère de la croix que dans le mystère de l'amour plus fort que la mort, dans le mystère d'une participation à ce suprême amour qu'est le don que le Christ Jésus fait de sa propre vie, de ce don que le Père fait de son Fils pour le salut du monde. C'est en entrant dans un mystère de rédemption qu'ainsi elle peut supporter cette épreuve et la rendre féconde, sans pour autant nier que ce soit une épreuve et que le malheur en lui-même a une face destructrice et négative. Il ne s'agit pas de dire que le malheur n'existe pas, mais il s'agit au contraire de savoir qu'est-ce que nous faisons du malheur. Est-ce que c'est une damnation ou est-ce qu'il y a un chemin de délivrance et de liberté qui nous permet précisément non pas de traiter la vie humaine et les engagements de la vie comme quelque chose qu'on efface comme on efface une bande magnétique ou bien comme on déchire un papier puis on recommence à zéro, on ne recommence jamais à zéro, mais qui permet de faire face au malheur, de l'accepter, ou plutôt de le voir, de le nommer comme malheur, d'éprouver ce refus de consolation, ce que j'appelais l'attitude de Rachel dans Rama, mais aussi d'aller au-delà de cette attitude, en prenant celle de Marie, qui, dans l'obscurité de la foi, dans l'épreuve même de la passion, reçoit la consolation de l'Esprit pour être capable de supporter et de transformer en acte de rédemption, en acte d'amour plus fort que la mort, ce qui est une épreuve injuste. Dans ce cas-là, il y a des exemples admirables d'hommes et de femmes qui non pas reconstruisent leur vie, mais assument leur existence, non seulement en faisant face aux conditions pratiques, à l'équilibre affectif, à l'équilibre même matériel de l'existence, à la manière de vivre la vie d'un foyer, souvent complètement désorganisé ou déséquilibré, à faire face aux nécessités financières, mais aussi à faire preuve d'un amour fidèle à celui ou celle qui est parti, et se trouve ainsi comme projeté au-delà d'eux-mêmes dans la sublimation de cet amour qui prend à l'évidence à ce moment-là la forme de la croix. Alors rappelez-vous à ce moment-là ces paroles de saint Paul sur la manière dont les époux peuvent participer l'un pour l'autre à l'œuvre de la rédemption. C'est dit en particulier de la femme pour le mari, mais c'est vrai aussi du mari pour la femme. D'une certaine façon, puisque le sacrement du mariage, nous dit saint Paul, nous dit l'Écriture, est une participation à l'amour du Christ pour son Église et de l'Église pour son Seigneur. Lorsque l'un des conjoints, par faiblesse, par péché, par sottise, par méchanceté peut-être, rompt cette alliance en se mettant dans la rupture, en, en s'éloignant, en ne supportant plus la situation telle qu'elle a été construite. Lorsqu'ainsi, un engagement pris dans la clarté et librement et devant Dieu est renié, oublié, détruit par l'attitude de l'un des conjoints, l'autre peut être doublement fidèle à cet amour, alors même qu'il n'en reçoit plus la réciprocité. C'est le cas clair de celles et ceux qui entrent dans le veuvage. Mais vous me direz, c'est pas la même situation. Puis un veuf ou une veuve peuvent se remarier. Oui, mais il s'agit là, dans ce cas précis, d'une épreuve crucifiante, hélas trop fréquente, qui est due en partie à notre civilisation, mais où il peut y avoir un exemple à donner et un chemin à trouver, exemplaire, incompréhensible aux yeux des hommes, qui est pourtant une force dans ce monde qui ne croit plus qu'à l'immédiat, au bonheur tel qu'on peut se le donner sur le champ, et qui n'est plus capable de faire face au malheur. Car la vraie question est la suivante: qu'allons-nous faire dans un monde où le malheur est inévitable? Est-ce qu'il faut, encore une fois, s'y résigner en le niant ou en se droguant? Ou bien pouvons-nous trouver dans le courage qui vient de Dieu et dans le chemin de la rédemption la force de le transformer de l'intérieur au point qu'on puisse le supporter et le dépasser? Car là est la question. Et le mystère de la croix, je le répète, l'amour plus fort que la mort, c'est celui qui accepte en profondeur la négation de l'amour pour le vaincre par un surcroît d'amour. Le conjoint abandonné peut faire preuve, en cette circonstance, d'un surcroît d'amour plus grand que le refus de l'autre. Il fait ce qui semble impossible au regard des hommes. Dans cette situation-là, on peut clairement comprendre que la phrase de Jésus, « Impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu », s'applique à la lettre. Mais rappelez-vous que cette phrase que Jésus a dite, parlant à l'occasion de l'homme riche à qui il demande de renoncer à tous ses biens, cette même phrase a été dite comme une raison, un motif de croire à la Vierge Marie au moment de l'Annonciation, de même qu'elle a été dite à Sarah et Abraham au moment de la promesse que Dieu leur a faite d'une descendance innombrable. À la semaine prochaine.